l'école de la cathédrale de Landaff, de 1923 à 1925, de 7 à 9 ans. Chapitre 1, la bicyclette et la confiserie. J'avais 7 ans lorsque ma mère décida qu'il était temps pour moi de quitter le jardin d'enfants pour entrer dans une véritable école. Par chance, il existait, à environ 2 km de chez nous, une école élémentaire de garçons jouissant d'une excellente réputation. L'école de la cathédrale de Landaff était située à l'ombre de la basilique dont elle portait le nom. L'une et l'autre existent toujours et ont gardé le même aspect florissant. Mais là encore, j'ai peu de souvenirs des 2 années que j'ai passées à l'école de la cathédrale de Landaff, entre 7 et 9 ans. 2 moments seulement sont restés fixés clairement dans ma mémoire. Le premier ne dura pas plus de 5 secondes, mais jamais je ne l'oublierai. C'était mon premier trimestre et je traversais à pied le terrain de jeu du village pour rentrer chez moi, après l'école, lorsque soudain apparut un grand de 12 ans, d'une classe au-dessus. Il dévalait la route à toute allure sur sa bicyclette à environ 20 mètres de moi. La route descendant d'une colline était en pente et quand il passa comme une flèche à ma hauteur, le garçon se mit à pédaler en arrière à toute vitesse si bien que le mécanisme de sa bicyclette en roue libre se mit à cliqueter bruyamment. Au même moment, il lâcha son guidon pour croiser négligemment les bras sur sa poitrine. Je me pétrifiais sur place pour le regarder. Quel merveilleux spectacle il offrait! Si rapide, si brave, si gracieux avec son pantalon long resserré aux chevilles par des pinces et la casquette rouge de l'école crânement inclinée de côté. Un jour, me dis-je, un jour glorieux viendra où j'aurai moi aussi une bicyclette et je porterai un pantalon long retenu par des pinces. J'inclinerai crânement ma casquette de l'école sur ma tête et je descendrai en trompe de la colline en pédalant à l'envers sans tenir mon guidon. Je vous assure que si quelqu'un m'avait mis la main sur l'épaule à ce moment-là et m'avait demandé « Quel est ton vœu le plus cher dans la vie, mon petit? Qu'est-ce que tu désires le plus au monde? Devenir médecin, grand musicien, peintre, écrivain ou lord chancelier ?» J'aurais répondu sans hésiter que ma seule ambition, mon espoir, ma raison de vivre, c'était de posséder une bicyclette comme celle-là et de descendre, comme le vent, la route de la colline sans tenir mon guidon. Ce serait fabuleux. J'en tremblais, rien que d'y songer. Mon deuxième et seul autre souvenir de l'école de la cathédrale de Landaff est extrêmement bizarre. L'événement se produisit un an plus tard environ, alors que je venais d'avoir 9 ans. Je m'étais alors fait quelques amis et lorsque je partais en classe le matin, j'étais d'abord tout seul, mais je rejoignais en route 4 autres petits garçons de mon âge. Une fois l'école terminée, nous repartions ensemble, ces 4 garçons et moi, et traversions le terrain de jeu et le village lui-même pour rentrer chez nous. Chemin faisant, à l'aller et au retour, nous passions toujours devant la confiserie. Et toujours, nous nous arrêtions. Nous nous attardions derrière la vitrine, d'assez petite taille, pour regarder les grands bocaux en verre remplis de calots, de réglisses, de sucre d'orge, de caramel, de boules de gomme, de bonbons acidulés, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous recevait 6 pence d'argent de poche par semaine et chaque fois que nous avions quelques pièces dans nos poches, nous entrions tous les 5 et achetions pour un penny de ceci ou de cela. Mes favoris, quant à moi, étaient les frissons et les lacets de réglisse. Un des autres garçons, qui s'appelait Thwaites, me déclara que je ne devrais jamais manger de lacets de réglisse. Le père de Thwaites, qui était médecin, affirmait qu'ils étaient fabriqués avec du sang de rat. Le père, ayant surpris son jeune fils en train d'en sucer, lui avait fait la leçon à ce sujet. « Tous les attrapeurs de rats du pays, lui avait dit son père, portent leurs rats à la fabrique de lacets de réglisse et le directeur leur donne 2 pence par rat. Bien des chasseurs de rats sont devenus millionnaires en vendant leurs rats morts à la fabrique. » « Mais comment transforme-t-il les rats en réglisse ?» avait demandé le jeune Thwaites à son père. « Ils attendent d'avoir 10 000 rats, » avait répondu le père. Puis ils les empilent tous dans un gigantesque chaudron de cuivre brillant où ils les font bouillir pendant plusieurs heures. Deux hommes remuent le mélange en ébullition avec de longues perches et pour finir, ils obtiennent un épais ragoût de rat fumant. Après ça, un broyeur est immergé dans le chaudron pour broyer les os. Le résultat final est une sorte de bouillie épaisse appelée purée de rat. « Oui, mais comment est-ce qu'ils fabriquent avec ça des lacets de réglisse, papa ?» avait demandé le jeune Thwaites. Cette question, d'après Thwaites, avait provoqué chez son père quelques instants de réflexion avant qu'il pût répondre. Il avait enfin déclaré « Les deux hommes qui remuaient le mélange avec de longues perches mettent maintenant des bottes en caoutchouc, descendent dans le chaudron et, armés de pelles, jettent la purée de rats brûlante sur le sol en ciment. Ils passent et repassent ensuite dessus avec un rouleau compresseur pour l'aplatir. Il en résulte une sorte de gigantesque crêpe noire et il leur suffit ensuite d'attendre qu'elle refroidisse et se soit durcie pour la couper en lanières et obtenir ainsi des lacets de réglisse. « N'en mange jamais », avait conclu le père, « sinon tu attraperas une ratite. »« C'est quoi une ratite, papa ?» avait demandé le jeune Thwaites. « Tous les rats attrapés par les attrapeurs de rats sont empoisonnés à la mort aux rats », avait répondu le père. « C'est ce poison qui donne la ratite. » « Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on l'attrape ?» avait insisté le jeune Thwaites. « Vos dents deviennent aiguisées et pointues », avait répondu son père. « Et une petite queue trapue vous pousse dans le dos, juste au-dessus du derrière. » Il n'y a pas de traitement pour la ratite. Je sais de quoi je parle, je suis médecin. L'histoire de Thwaites nous amusait beaucoup et nous la lui faisions souvent répéter sur le trajet de l'école. Mais elle n'empêchait aucun d'entre nous, à l'exception de Thwaites, d'acheter des lacets de réglisse. À un penny les deux, c'était la friandise la plus abordable de la boutique. Il faut vous dire qu'un lacet de réglisse, au cas où vous n'auriez pas eu le plaisir d'en manipuler un, n'est pas rond mais plat. Et mesure environ 1 cm de large. On l'achète sous forme de petits rouleaux, et à cette époque, le ruban était si long que lorsqu'on le déroulait et qu'on le tenait par une extrémité à bout de bras au-dessus de la tête, l'autre bout touchait le sol. Les frissons coûtaient également 1 penny les deux. Chacun se composait d'un gobelet en carton jaune rempli d'une poudre sucrée, d'où sortait un tube de réglisse creux. « Du sandra, de nouveau !» nous mettait en garde le jeune Thwaites en nous montrant le tube noirâtre. On aspirait la poudre avec le tube et quand on avait fini, on mangeait le réglisse. Ils étaient délicieux, ces frissons. La poudre moussait dans la bouche et si vous saviez vous y prendre, vous pouviez faire sortir une écume blanche par vos narines et feindre une crise d'épilepsie. Les boules magiques, qui coûtaient 1 penny pièce, étaient comme de grosses billes rondes et dures, de la taille de petites tomates. On pouvait sucer une de ces boules pendant une bonne heure d'horloge, et si on la sortait de sa bouche pour l'examiner toutes les 5 minutes, on constatait qu'elle avait changé de couleur. Sa façon de passer du rose au bleu, puis au vert et au jaune, avait quelque chose de fascinant. Nous nous demandions comment pouvait bien s'y prendre la fabrique de boules magiques pour réussir ce miracle. « Comment est-ce que ça marche ? » nous demandions-nous les uns les autres. « Comment est-ce qu'ils font pour qu'elles changent de couleur comme ça ?»« C'est votre salive qui les fait changer », affirmait le jeune Thwaites. En tant que fils de médecin, il se considérait comme compétent sur tout ce qui avait trait au corps humain. Il pouvait nous faire un cours sur les croûtes et nous dire quand il était temps de les arracher. Il savait pourquoi un œil au beurre noir devenait bleu et pourquoi le sang était rouge. « C'est votre salive qui fait changer la boule magique de couleur », insistait-il. Et lorsque nous lui demandions de développer cette théorie, il répondait « Vous ne comprendriez pas, même si je vous expliquais. » Les perles étaient excitantes parce qu'elles avaient un goût inquiétant. Elles sentaient le vernis à ongles et vous glaçaient le fond de la gorge. Nous avions tous été mis en garde contre cette variété de bonbons et, résultat, nous nous en gavions. Il y avait également un losange marron et dur, qui s'appelait un arlequin. L'arlequin avait un goût et une forte odeur de chloroforme. Nous étions tous intimement persuadés que ces bonbons étaient saturés de ce redoutable anesthésique qui, comme Thwaites nous l'avait maintes fois fait remarquer, pouvait vous endormir pendant des heures d'affilée. « Si mon père doit scier la jambe de quelqu'un, disait-il, il verse du chloroforme sur un tampon et la personne le respire et s'endort, et mon père peut lui scier la jambe sans qu'il sente rien. Mais pourquoi en mettent-ils dans les bonbons pour nous les vendre ? Lui demandions-nous. On aurait pu croire qu'une question de cet ordre allait déconcerter Thwaites, mais Thwaites avait réponse à tout. « Mon père dit que les arlequins ont été inventés pour les bandits dangereux en prison », expliqua-t-il. « On leur en fait avaler un à chaque repas et le chloroforme leur donne envie de dormir et les empêche de se révolter. » « Oui, disions-nous, mais pourquoi en vendre aux enfants ?»« C'est un complot, disait Thwaites, un complot des adultes, pour nous faire tenir tranquilles. » La confiserie de Landaff en l'année 1923 était le centre même de notre existence. Pour nous, c'était l'équivalent d'un bar pour un ivrogne ou d'une église pour un évêque. Sans elle, nous aurions pratiquement perdu toute raison de vivre. Mais elle présentait un terrible désagrément, cette confiserie. La propriétaire était une horrible créature, nous la détestions et notre haine était parfaitement justifiée. Elle s'appelait Madame Pratchett. C'était une vieille sorcière, petite, maigre et moustachue, avec une bouche en cul de poule. Elle ne souriait jamais. Jamais elle ne nous saluait quand nous entrions et elle ne nous adressait la parole que pour dire « Je vous ai à l'œil, bande de petits voleurs, alors touchez pas au chocolat. » Ou encore « S'agit pas d'entrer ici rien que pour regarder. Ou vous sortez vos sous, ou vous sortez d'ici. » Mais de loin, le trait le plus abominable chez Madame Pratchett, c'était sa saleté repoussante. Son tablier était gris de poussière et graisseux, son corsage maculé des reliefs du petit-déjeuner, miettes de toast, taches de thé, éclaboussures de jaune d'œuf desséché. C'était ses mains, néanmoins, qui nous dégoûtaient le plus. Elles étaient immondes, noires de crasse. On aurait dit qu'elle avait passé sa journée à mettre des boulets de charbon sur le feu. Et n'oubliez pas que c'était ses mains-là, ces doigts-là, qu'elle plongeait dans les bocaux quand nous demandions pour un penny de caramel, de boules de gomme ou de praline. Il n'y avait guère de loi réglementant l'hygiène à cette époque, et personne, surtout pas Madame Pratchett, n'aurait eu l'idée d'utiliser une petite pelle pour sortir les bonbons des bocaux, comme on le fait de nos jours. La simple vue de sa main malpropre aux ongles en deuil, extirpant 30 grammes de bouchée au chocolat, aurait fait s'enfuir à toutes jambes de la boutique un vagabond affamé. Mais pas nous. Les bonbons étaient l'essence même de notre vie. Nous aurions subi bien pire encore pour nous en procurer. Nous restions donc plantés là, silencieux et renfrognés à regarder cette vieille horreur farfouillée dans les bocaux avec ses doigts répugnants. Une autre raison de haïr Madame Pratchett, c'était son avarice. À moins que nous ne dépensions 6 pence d'un seul coup, elle ne nous donnait pas de sachet. Elle se contentait d'envelopper les bonbons dans un petit morceau de journal qu'elle arrachait à une pile de vieux Daily Mirror posée sur le comptoir. Vous pouvez donc comprendre que nous avions une dent contre Madame Pratchett. Mais nous ne savions pas très bien comment nous venger d'elle. De nombreux plans avaient été conçus, mais aucun ne valait grand-chose. Aucun, à vrai dire, jusqu'au jour où, brusquement, par un mémorable après-midi, nous trouvâmes une souris morte.